On est maintenant je dirais, en termes de découverte médicale. L'actualité se bouscule chaque semaine. Des nouvelles vraiment prometteuses, des découvertes, des avancées nous permettent de penser qu'un jour, bien des maux et bien des situations difficiles à vivre auront trouvé une solution. Et pour nous aider à suivre l'actualité scientifique, nous avons le plaisir, cette année encore, d'avoir en notre compagnie Monsieur Philippe Ducharme. Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va bien? Puis
Ça va?
merci bien pour l'invitation, hein?
Ah, ben ça me fait plaisir. Et on va se reparler presque chaque mois, c'est toute la saison. Et
C'est
aujourd'hui, de
sûr.
quoi parle-t-on?
Ben écoutez, je commence d'abord par un sujet qui se lit comme suit, hein? De faibles courants électriques au cerveau de personnes âgées pour contrer les pertes de mémoire. C'est une conclusion à laquelle sont en venus des chercheurs de l'Université de Boston, des résultats qui ont été quand même publiés dans une revue très prestigieuse. On parle ici de Nature Neuroscience. Évidemment, c'est une conclusion qui offre quand même beaucoup d'espoir pour les personnes vieillissantes, mais aussi les personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative. Avant de vous présenter les résultats, qu'est-ce que la mémoire?
Oui, voilà, parce que
Hein?
souvent, on fait une distinction entre la mémoire courte et à court terme ou à long terme. On se souvient d'épisodes de notre enfance, mais pas du nom de la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure.
Effectivement. Fait que la mémoire, on peut la décortiquer en cinq types. La mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, c'est la mémoire qui nous permet de retenir de l'information pendant qu'on réalise une tâche ou une activité. À l'opposé, il y a la mémoire sémantique et je vais aussi parler de mémoire épisodique. Ce sont deux types de mémoire associés plutôt au long terme. Donc, la mémoire sémantique, c'est celle qui nous permet d'acquérir un langage ou, par exemple, d'acquérir les connaissances que nous avons, que nous voyons tout au cours de notre vie. La mémoire épisodique, c'est celle des moments vécus. C'est la mémoire qui nous permet de se situer également dans le temps. Il y a deux autres types de mémoire. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des automatismes, donc le fait de marcher, de conduire une voiture ou de jouer un instrument de musique. Donc, ça fait appel à cette mémoire-là. Et finalement, la mémoire perceptive, donc la mémoire des sens.
Ah ben un peu comme Proust là, où chacun de nous, on se souvient de l'odeur de la tarte aux pommes.
Voilà,
Voilà, moi
exactement.
l'odeur du gazon fraîchement coupé, ça me retourne en enfance parce que quand j'étais petit, il y avait beaucoup, beaucoup de pelouse autour de chez nous. Et l'odeur du gazon fraîchement coupé. Et j'ajouterais même l'odeur de la tondeuse à gazon à essence.
Ah oui.
Oui, ça me replonge dans mon enfance. C'est un moment
D'accord.
proustien. Mais on revient à notre sujet
Oui,
de
tout à fait.
stimulation électrique. On peut donc éviter une détérioration des facultés de mémoire.
Voilà, exactement. Donc, l'étude, en gros, ils ont recruté 150 participants, des gens âgés entre 65 et 88 ans. Ces personnes-là ont été soumises à une stimulation avec de faibles courants électriques, là, je veux préciser, là, ce sont des faibles courants, c'est pas de l'électrocution ici, là. Les gens avaient des électrodes au niveau du cuir chevelu et pendant la stimulation, les gens devaient lire des listes de mots à haute voix puis afin de les mémoriser. Et cette stimulation-là s'est produite durant 4 jours consécutifs. Il y a deux constats qui sont ressortis de ça. D'abord, les stimulation à haute fréquence, on parle ici de 60 Hz, dirigée spécifiquement au niveau du cortex, bon, cortex préfrontal dorsolatéral. On va faire ça simple, là, c'est au niveau de l'avant sur les côtés du cerveau. Donc, ce type de stimulation-là permet aux gens d'avoir une. Ils ont remarqué donc que les gens avaient une meilleure capacité de se souvenir des premiers mots. Donc, ça suggère donc une amélioration de la mémoire à long terme. Deuxièmement, des stimulations à basse fréquence cette fois-ci. Donc, on parle de 4 Hz environ au niveau du lobe pariétal inférieur. Ça, c'est tout près des oreilles, au niveau du cerveau. Donc, ces stimulations-là ont donné une meilleure capacité de se souvenir des derniers mots. Donc, on parle donc des mots les plus
La
récemment
mémoire de
appris.
travail à court terme.
Voilà, exactement, mémoire à court terme. Donc, essentiellement, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que au niveau du cerveau vieillissant, bien, la plasticité neuronale peut se moduler et va se moduler de manière sélective et durable. J'ai oublié de mentionner, les effets ont été perçus pendant plus d'un mois. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Le cerveau, ben, on peut le modifier au niveau de ses connexions neuronales, et bien sûr, le cerveau vieillissant, et donc limiter peut-être les pertes de mémoire. Et évidemment, pour des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives où justement il y a une perte de mémoire parfois associée à certaines maladies comme l'Alzheimer, ben, ça devient peut-être une avenue intéressante pour ces gens-là éventuellement.
Oui, tout à fait. Et c'est certainement, c'est angoissant quand on commence à perdre nos facultés cognitives et on est conscient voilà. qu'on est en train de glisser un peu. Alors, si on peut, s'il y a des solutions, cette découverte-là peut amener éventuellement un traitement pratique et faisable. On va se déplacer du laboratoire jusqu'à l'aquarium.
Oui, c'est très bien dit. En fait, pour introduire ce sujet-là, je vais d'abord camper le contexte, c'est-à-dire qu'on est dans le contexte des maladies cardiaques.
D'accord.
Pourquoi? Parce que c'est quand même la première cause mondiale de décès. Et au Canada, il y a une personne qui décède malheureusement des suites d'une maladie cardiaque aux 5 minutes. Donc, c'est un sujet assez préoccupant. Maladie cardiaque, tout le monde pense à crise cardiaque. Évidemment, c'est une obstruction des artères du cœur. Ça entraîne donc un manque d'oxygène localisé au niveau du muscle cardiaque. Les cellules du cœur vont mourir. Et le corps, pour réagir, il répare ça, mais il ne répare pas ça de la meilleure façon possible, c'est-à-dire qu'il va produire des cellules fibreuses.
Il va avoir des tissus, ce qu'ils appellent des tissus cicatriciels ou des choses qui vont être moins souples et qui, à la longue, vont créer d'autres obstructions.
Exactement. Et là, on a des problèmes d'insuffisance cardiaque. Et on arrive à l'aquarium, justement. Évidemment, dans la recherche, il y a plusieurs modèles animaux qui sont intéressants pour étudier des problématiques. Je vous parle du poisson zèbre, un tout petit poisson qu'on peut s'acheter à l'animalerie, ce poisson brillant avec des petites lignes bleues sur le côté du corps. Eh bien, ce poisson-là, il a un super pouvoir de régénérer son cœur après une lésion. Donc, après 3 mois, le cœur revient à un état tout à fait normal, et c'est quand même fantastique. Évidemment, les chercheurs s'intéressent à ça. On essaie de comprendre quels sont les secrets.
Pourquoi lui et pas les autres?
Parce que nous, c'est unique quand même. On n'est pas capable. Ce qu'on sait déjà en partant, c'est que quand il y a une lésion au niveau du cœur de ces poissons-là, les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur vont produire un facteur de croissance. Je vous le nomme, le VEGF, c'est son acronyme. Ce facteur de croissance-là, il va stimuler en partie la revascularisation, donc refaire des petits vaisseaux sanguins là où il y a eu une blessure, mais surtout, et là ça devient intéressant, c'est le VEGF qui va stimuler la prolifération, non pas de cellules fibreuses, mais de cellules cardiaques.
Les cellules qui sont identiques à celles qui ont été, qui ont été meurtries, donc identiques au reste du cœur qui est encore sain.
Bon. Et voilà, tout à fait, exactement. Donc, je vous amène dans des travaux d'un chercheur de l'Université de Montréal, associé également au CHU Sainte-Justine, le docteur Ruben Marin-Jouez. C'est un chercheur qui s'intéresse aux mécanismes qui sont en jeu dans cette réparation-là, dans cette prolifération-là des cellules cardiaques. Ce que leurs travaux récemment ont démontré, c'est que quand le VEGF, le facteur dont j'ai parlé il y a quelques instants, quand il est produit, il entraîne aussi l'expression, la production de 2 autres molécules, 2 autres protéines. D'abord, la première, MLIN2A, c'est le nom qu'on lui a donné. Cette protéine-là, une fois qu'elle est produite, elle entraîne la production d'un autre, qui est CXC18A.
C'est son acronyme. C'est un challenge pour ma mémoire à court terme, là. CXCR18A. Mais en fait, ce qui compte, qui est important de retenir. Il a fallu étudier beaucoup, beaucoup d'êtres vivants avant de tomber sur le poisson zèbre, là, parce que c'était peut-être pas en haut de la liste le premier jour.
Non,
juste parce que c'est zèbre et non pas un albatros. Mais aussi, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait une application pratique peut être répliquée chez l'humain?
L'objectif dans tout ça, là, ultimement, c'est de trouver peut-être une recette, les ingrédients qu'il faudrait pour peut-être être capable de stimuler chez l'humain la production de cellules cardiaques suivant un infarctus ou un dommage au niveau cardiaque. On s'entend, là, on est dans des résultats préliminaires.
On est loin, c'est
sûr. Très prometteurs. Et plus on en saura sur le cocktail de molécules qui permet de stimuler ces cellules-là à être produites, les cellules cardiaques, ça ouvre de plus en plus des possibilités au niveau de la recherche pour amener quelque chose de thérapeutique à terme.
Ça, c'est justement, ça donne le goût de suivre l'affaire parce que les maladies cardiaques, on n'en meurt pas nécessairement, mais elles peuvent avoir des séquelles,
ben oui.
des séquelles terribles. Pour terminer rapidement, les lentilles
Oui.
de réalité augmentée, qui est une technologie qui commence à se commercialiser beaucoup, ça peut avoir des applications pour les personnes qui ont un handicap visuel.
Ben voilà, ce qui m'a vraiment attiré là-dedans, c'est parce qu'on parle de réalité augmentée. La réalité augmentée, on connaît ça un peu là, dans notre vie quotidienne. Nos appareils intelligents permettent, si je prends par exemple l'appareil qui nous permet de se donner des petites oreilles de chat et un petit nez de chat.
Ah
Quand on
oui,
regarde à
qu'on
l'écran.
ajoute à nos
Voilà.
propres images, oui,
Voilà.
et tout à fait.
Donc ça, c'est l'exemple très commun. Moi, ce que je veux simplement dire ici, c'est que la prouesse technologique, c'est d'avoir rendu possible cette technologie-là, pardon, au niveau d'une lentille. Donc, quelqu'un porte une lentille sur l'œil, eh bien, il y a une mini caméra, là, c'est très petit, 0,5 mm à peine, qui peut projeter de l'information donc numérique. Et la personne voit cette information-là dans son environnement réel. Et donc, cette petite technologie-là est équipée avec une petite batterie pour lui fournir l'énergie, des capteurs pour être capable de faire en sorte que ce qui va être projeté devant nous, finalement, va suivre notre regard. Si je tourne les yeux, l'information va suivre également.
OK.
C'est une application qui est très intéressante côté divertissement, mais ce que la compagnie qui a développé ça, ce qu'elle souhaite d'abord et avant tout, c'est la rendre utile pour des gens qui ont des déficiences visuelles, évidemment. Faire en sorte que ces personnes-là puissent être un peu plus autonomes, puissent
Ah, ben
consulter de l'information.
ça, c'est formidable, Philippe.
Oui.
On va explorer ce sujet-là plus avant. Pour nous,
Parfait.
c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup
Ça fait
d'avoir
très
été
bien.
là.
Ça fait
On se
plaisir.
retrouve peut-être dans un mois pour parler d'actualité scientifique.